Qu'il neige, qu'il grêle, qu'il pleuve, ils seront toujours là, ces plumes et pinceaux. L'émission de bande dessinée de Canal B.
Enrhumée,
l'émission enrhumée de Plumes et Pinceaux.
490e, on est d'accord ?
On est d'accord, yes. Exactement, yes. Ça commence à chiffrer. 490e émission, donc consacrée à la bande dessinée. On va retourner à Quai des Bulles, session 2024. On va rencontrer Anaïg Plassard, Citez un homme, chez Glénat, un album collectif autour de la masculinité.
Yes.
Ça va être l'interview que vous allez pouvoir entendre.
Une œuvre collective avec une jolie couverture de Monsieur Zanzim.
Ouais. Et puis un peu de chronique, un peu de news, notre rubrique nécrologique habituelle. Voilà.
Là, justement, on a eu des plaintes. Il paraîtrait que dans le milieu, on nous appellerait les nécro-BD. Il y aurait même des autrices et des auteurs qui nous éviteraient, genre qu'on foutrait la poisse. Si, l'autre, il a...
Tu meurs dans l'année.
Ouais, c'est comme, vous savez, la légende urbaine sur le chat qui va sur le lit dans les EHPAD, le chat de la mort.
Ouais, ouais.
Hein, qui va chez la mamie ou le papy. Eh ben, il paraîtrait... Médisance, nous, c'est pas, on est comme ça, nous, en Bretagne, quand il y a quelqu'un qui s'en va, eh ben, on le dit.
Voilà. On n'a pas peur de l'encou.
Ouais, alors, est-ce que c'est parce qu'après, on aime bien aller boire le café, le coup de vin chaud, allez savoir, j'en sais rien.
Et puis, de la musique, ma petite obsession des Johnny, cette fois, c'est Johnny Mafia.
Bien.
Une chanson pour Trevor Philippe. Quatuor de lance terriblement efficace que j'ai pu apprécier à passer il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, nous avons une réputation. de nécro BD. Et c'est vrai, une nouvelle un peu triste.
Même très triste. Et ouais. D'ailleurs, il n'y a pas que nous hein, qui faisons dans la nécro. Monsieur Laurent Le Fox, sur son compte Instagram, a publié un magnifique dessin, un portrait, pardon, de justement...
Bernadette Després.
Voilà, créatrice de Tom Tom et Nana. Voilà.
Ouais, qui vient de décéder à l'âge de 83 ans. Ouais. Elle avait été mise à l'honneur par le Festival d'Angoulême lors du 46e festival. Il y avait une exposition sur Tom Tom et Nana. Un dessin d'une grande naïveté. Très sympathique. C'est des jolies histoires. C'était dans J'aime lire, c'était des trucs pour
gosses. Ouais, et les mômes adoraient.
J'ai des souvenirs de ça, moi.
Et on a pu le voir. Ben ouais, moi, je suis trop vieux, tu vois. J'ai pas vu. Ouais, j'ai vu Tom et Nana, mais pour mes gosses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, justement, Laurent Houssin et son épouse avaient organisé une exposition croisée avec Anouk Ricard à Quai des Bulles.
Oui, également, ouais.
Cette année. Et lors de cette expo, moi, je voyais les mômes dans l'expo. C'était génial. Et en plus, il y avait des trucs qui pouvaient être touchés. Et c'était absolument génial. Et effectivement, il suffit de regarder. Il suffisait de regarder le regard des mômes pour se dire, ouais, à mon avis, ça plaît aux mômes.
Ouais, parce que c'était deux gamins espiègles qui défiaient les adultes.
Ouais.
Et ce côté impertinent et avec ce ton très naïf était vraiment très très efficace. Ouais, c'est même multigénérationnel, je pense.
Ouais, et on voit les parents, il y avait des parents aussi qui, plus jeunes que moi naturellement. et effectivement, qui étaient contents de retrouver parce que ils ont appris à lire avec Tom Tom et Nana, quoi.
Voilà. Et elle nous a quittés, cette pauvre dame, mais. Elle était un peu à part dans le monde de la BD.
Oui, c'était... Ouais,
c'est vraiment un créneau enfant.
Ouais, il y avait aussi, c'était animé aussi.
On parlait d'Angoulême.
Ah, alors tiens, Angoulême, il faudrait les inventer tous les ans. Alors tous les ans...
C'est pas béni pour les artistes.
Bah écoutez, il y a tous les ans, qu'est-ce qui va merder cette année à Angoulême? Alors cette année, c'est le prix. C'est le prix puisqu'on a le droit à une augmentation de combien? De
25%.
Mais ouais, alors sur le coup, je me suis dit, c'est combien le passage à Angoulême?
Le plein tarif, une journée, 23 euros. 29 euros le samedi.
Ouais. Et 23 euros jeudi, vendredi et dimanche, et 29 euros le samedi.
Ouais, et c'est horriblement cher.
Ouais, ça fait 5 euros de plus que l'an dernier. Le pass 4 jours vaut 60 euros. 15 euros de plus qu'en 2024. 60 boules. Ah, ouais, c'est sûrement, il y a des grands auteurs, etc. Mais 60 boules, allez, tu mets 10 boules de plus, tu vas chez Mickey, il te file les oreilles, quoi.
Ouais, c'est clair. Et en fait, en plus. Par rapport à son concurrent le plus sérieux, Quai des Bulles. Quai des Bulles, le forfait journalier, quel que soit le jour, il n'y a pas de différence avec le samedi, tout est à 11 balles, plein tarif la journée.
Voilà, et le passe 3 jours doit être à 33, un truc comme ça.
Même pas. Je crois qu'il est dans les 23 ou 22 euros.
Ouais.
Et donc, En plus, moi quand je vais en festival, je vais un petit peu aux expos, mais je vais surtout pour avoir des dédicaces. Et les dédicaces, c'est long, t'en as pas beaucoup, ça devient de plus en plus dur. C'est un sacré investissement pour 3-4 dédicaces peut-être sur un festival. C'est chaud, quoi.
Bah ouais, je trouve qu'effectivement, là, c'est un petit peu abusé, vous voyez.
Et du coup, il y a des réactions? Vous avez vu des réactions
C'était dans la Charente Libre que j'ai chippé ça, puisque c'est le journal du coin, la Charente Libre.
Ouais.
Et ils posaient la question, est-ce que à des amateurs de BD, est-ce que vous allez aller, effectivement, est-ce que ça peut... 60 boules, et là, les gens tiquaient un peu, quand même. 60 boules, ça fait un peu mal au cul pour un pass de 3 jours.
Même à la journée. C'est plus cher qu'un cinéma.
Ben ouais. Tout cela est un petit peu...
Ça fait cher le Titeuf.
À condition qu'il vienne. Parce qu'en plus de ça, il y a tellement de monde, il faut bien trouver une solution. Il y a des éditeurs qui ont une solution qui n'est pas plus mauvaise qu'une autre, mais par exemple le tirage au sort.
Ouais.
Ça veut dire que vous payez le pass 60 boules. Et imaginez que vous ne soyez pas dans votre jour de chance.
Après, si tu n'es pas du coin, il faut que tu te loges aussi, il faut que tu bouffes.
Ouais. Moi, je trouve que ça commence à faire un petit peu chaud. Et alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des tarifs chômeurs? J'ai pas entendu parler de ça. Donc, vous voyez. Ah, si, une mauvaise nouvelle aussi. Une autre mauvaise nouvelle, alors ça concerne plus les éditeurs, comment dirais-je, qui on voit, par exemple, comment ça s'appelle, nom de Dieu, aidez-moi, Flux Glacial, par exemple, on voit des journaux.
Ouais.
Y a des tas de gens qui envoient des livres par la poste. Ouais. Or, il y avait un tarif privilégié pour les structures éditoriales.
Quand tu avais un abonnement?
Par exemple, vous êtes un journal, vous êtes une maison d'édition, vous pouviez acheter un tarif privilégié qui vous permettait d'envoyer vos bouquins à pas trop cher, vous voyez. Mmh. Et là, la poste, l'a déjà fait ou veut le faire, de supprimer, ce tarif-là. C'est pas ça qui va aider l'édition. Et je pense justement, je rebondis enfin sur les éditions Rookmout. Je rappelle que, un petit message, monsieur Rookmout, tient au courant l'opinion publique et tout le monde en général, de l'état de ses finances, il leur faut 100 000 euros. Voilà, ils en sont à 30 000, ce qui est déjà pas mal, depuis leur appel à l'aide. Mmh. Il en manque encore, hein, tout le monde sait compter, il en manque encore 70 000. Il ne faudra pas s'étonner si chez Plume et Pinceau, il advient que nous promotionnions... ah, c'est dur à dire.
Un briquet, quoi.
Un briquet, quelque chose. Il ne nous a même pas filé de briquet quand il est venu à Quai des Bulles, qu'on l'a interviewé.
Non, il était sympa. Ok. Interlude musicale.
Ouais.
Programmation à Roger.
Yes. Alors, vous avez mis quoi là cette fois-ci?
C'est de Dusty Springfield. Ah. Spooky. Un charmant morceau qu'on pouvait entendre notamment dans la BO d'un excellent film anglais de Guy Ritchie, Crime arnaque et botanique.
Ah, c'est là que je l'avais entendu la première fois.
Il était dedans, il était excellent ce film.
Ouais, ouais. Et cette sa façon qu'elle a de prononcer spooky.
On va parler masculinité tout à l'heure, ça tombe bien.
Attendez, alors ça c'est un peu facile. Voilà.
Non mais vous êtes dans le thème. Voilà. Vous êtes dans le thème, faut reconnaître, vous êtes dans le thème.
Oui, bon, on chronique avant, il me semble quand même.
Ah bah oui, bien sûr, on a quand même encore un petit peu de temps. Non, j'ai envie de vous parler d'arbres en plus.
Eh ben, vous voulez commencer ?
Ouais. En fait, puisqu'on parlait aussi de festivals et tout ça, c'est une BD que, en fait, c'est un auteur que j'ai découvert, que nous avons découvert, j'ai envie de dire, Benjamin Flao. Il y avait une exposition des œuvres de ce monsieur à Quai des Bulles. Et il faut reconnaître que moi, je ne connaissais pas ce monsieur. Et je crois que mon ami Roger non plus. Bref, nous ne connaissions pas. Et tous les gens qu'on croisait nous étaient dithyrambiques sur monsieur Benjamin Flau et sa maîtrise graphique. On a été voir et ça, effectivement, on a vu qu'on avait raté quand même vraiment un dessinateur quoi, de puissant.
Ça, c'est vrai. Et on nous l'a d'ailleurs, pendant tout Quai des Bulles...
On a ri de nous.
Ouais, tout le monde nous l'a dit. Tout le monde nous l'a dit, avec plus ou moins d'insistance.
Alors déjà qu'on portait la mort, mais en plus...
Voilà, non seulement on passe à côté de trucs... d'auteurs, mais je veux dire, ils sont il y a du monde et puis on est deux, et puis moi je suis vieux perso,
je cours plus très vite
quoi. Mais et le plus terrible, c'est que moi je connaissais déjà un de ses bouquins,
La vie secrète des arbres.
Ouais
alors, c'est
pas celui-là,
que j'ai là.
Pas celui-là, un autre avant dont je me rappelle plus le titre, et j'avais complètement zappé.
Ah ouais, ben moi je l'ai découvert avec la vie secrète des arbres. Alors c'est vrai que j'avais entendu parler par contre de Peter Folleben, qui est le personnage central de cet album. C'est un forestier allemand. C'est son histoire, c'est sa relation avec la forêt, avec le métier, et c'est à la fois autobiographique, intimiste, vraiment ce personnage nous clame son amour pour la forêt. C'est très allemand, ça, quelque part, tu vois. C'est un romantisme germanique à la Kaspar, vraiment très, très fort. Il y a une image comme ça. Et puis, c'est aussi une explication quasi scientifique de qu'est-ce que c'est que la forêt comme écosystème, et notamment du rôle de l'arbre. C'est décomposé en 4 épisodes qui correspondent aux 4 saisons. Et Peter Folleben nous raconte son métier de forestier et tout ce qu'il a appris par ses lectures, par ses observations sur la vie qu'il y a dans la forêt, quoi. Et notamment la forêt où l'humain finalement intervient le minimum. Et il nous explique notre relation et tout ce que l'on doit aux arbres et comment... avec l'idée de quand même, on devrait respecter un peu les forêts et le vénérable arbre, parce que notamment le passage où il nous explique que les arbres des villes sont stressés en nous donnant vraiment les explications scientifiques, c'est saisissant, quoi. Ça change ton regard sur le pauvre arbre, effectivement, que tu trouves sur tes trottoirs et que les mairies abattent de manière régulière.
Ouais, il les élague.
Il les élague, tu m'étonnes, il les élague, il les mutile, en fait, il les mutile. Et c'est vraiment très, très passionnant de départ. Et alors le dessin, effectivement, est des forêts
et d'une
toute beauté, quoi. Des saisons
et se marie parfaitement bien avec les arbres, c'est très fin.
Les intertitres là où il annonce les saisons, t'as à chaque fois le portrait d'un arbre, quoi.
Alors comment il s'est emparé de l'affaire, parce que il y a plein de choses techniques et tout, alors comment
il a géré
les explications techniques?
Ouais, c'est un mélange, en fait. Donc tu vois notre personnage qui déambule les forêts, qui dialogue avec toi, quoi. Il parle à voix haute, il est avec son chien. Vraiment, moi je kiffe ça. Il a ses bottes au pied, il est avec son chien et il se promène dans la forêt. Et puis t'as des encarts après scientifiques, par exemple quand il va commencer à nous parler de toutes les petites bestioles qui grouillent, les petits técanomibiens, les myriopodes, les lombriques et tout ça. Et bah tu vas avoir des petits schémas, tu vois, comme dans une encyclopédie. Et puis t'as ces scènes donc de vie, et puis des grands aussi, des grands paysages, quoi. C'est vraiment hyper chouette. Et ça, c'est un sacré message écologiste, tu vois.
Ouais.
Vraiment. C'est hyper puissant. C'est un gros et bel album paru chez les Arènes BD. Donc c'est avec Peter Folleben, La vie secrète des arbres, son autobiographie adaptée par Fred Bernard, je pense qui lui s'est occupé justement de l'organisation, la mise en scène, quoi. Et Benjamin Flau est aux peintures, j'ai envie de dire. Rien que la couverture, moi je la trouve, c'est la vie rêvée, ça. Ouais. Ça, c'est la vie rêvée.
Et c'est vrai vraiment. Que depuis que vous m'avez dit que vous avez envie d'avoir un chien Bobby pour aller vous promener dans la forêt,
c'est marrant. Il m'est tombé dessus à un moment où vraiment je suis attiré par ça, et ça m'a vraiment beaucoup plu, quoi.
Et ce qu'il y a de dingo, ce qu'on a découvert avec ce chercheur allemand, c'est surtout les interactions entre les arbres, les messages.
Il communique, en fait.
Ouais, et puis des recherches qui se sont développées aussi, vous savez, avec le lien avec les champignons, vous savez, parce qu'en fait, c'est des champignons, comme si les champignons étaient des transmetteurs neuronaux d'informations. C'est un truc de dingo.
Il y a un côté neuronal.
Ouais.
Qui est impressionnant.
totalement, ben voilà, puis nous on est là, puis on vient foutre la merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Ouais, grosso modo, c'est l'idée, quoi.
Alors justement, on va continuer dans le, ton. Ça fait un peu ton sur ton, vous me direz. Mais bon, ça c'est pour me venger.
L'ambiance est vert de gris.
Ouais, c'est pour me venger d'un vieil ami qui arrête pas de m'envoyer des messages sur Instagram sinistre, genre on va tous mourir. Et hier, je lui ai... j'ai fini par lui répondre pitié. Juste. Alors pour me venger, parce que je sais que de temps en temps il nous écoute, tiens voilà, il va falloir que vous achetiez Willem, mort de rire. Alors, le grand souci de cet ouvrage-là, c'est qu'il est énorme, c'est presque un...
Non, il n'est pas énorme, il est grand.
Il est grand, oui, parce qu'il n'est pas hyper épais.
C'est plus qu'un A3, ça.
Ah ben c'est un in-quarto, on pourrait dire, ça, carrément, avec un somptueux papier. Papier hyper épais, et papier, on a l'impression d'acheter une pochette canson, voyez.
C'est un très très grand cahier.
Et c'est le deuxième dont je fais l'acquisition, et je vous avais chroniqué lorsqu'il était sorti Z. C'était pareil, même type d'ouvrage. Je rappelle quand même que Monsieur Willem est quand même un des plus anciens, toujours vivant, caricaturiste et dessinateur de presse français. Il a publié énormément dans Libération. Il a quitté Libération, l'âge aidant, il a laissé sa place à Coco. Et par contre, il continue de produire ici et là. Et les requins marteaux se sont fait depuis bien longtemps une spécialité de recueillir et d'éditer les travaux de Willem publiés dans la presse. Et c'est toujours aussi somptueux. À un moment donné, il faisait du Willem poche, les requins marteaux. C'était pas mal aussi. Vous voyez, format
qui n'a pas son Willem,
ouais, qui n'a pas son petit Willem poche. Et c'était pas mal aussi. Mais là, alors est-ce une demande de Willem ou une proposition des requins marteaux ? Faudrait leur poser la question. Et ça nous donne, on a comme, vous voyez, des planches de dessin. Et alors, il faut rappeler, alors, trait de Willem, noir et blanc, avec parfois...
Gros aplats noirs.
Ouais, des gros aplats noirs.
Et des fois, gros aplats blancs.
Ouais. Et aussi, parfois, l'adjonction d'une couleur. Alors, on fait pas mal dans le vert, parce que Willem, il nous parle énormément. Depuis le début de sa carrière, en fait. Il fait que ça, depuis le début de sa carrière. Alors, avant, il y avait des histoires encore qui étaient... parfois un peu plus fun, Dick Talon, mais ça, c'est très, très vieux. Et là, par contre, on n'est véritablement que dans l'analyse des événements, et c'est une catastrophe. Mais traité à la sauce Willem, ça passe. Et il y a un côté, moi, je dirais que les historiens du dessin, dont nous ne sommes pas, mais le diront dans 50, dans 100 ans, Willem, et pour moi, ouais, c'est l'équivalent des plus grands, Steinlein, Josso, etc., dans sa façon de traiter le dessin de presse. Vous voyez,
j'approuve là, ce message.
On voit le vieux Poutine, ça s'arrose, qui fait, il invite tout le monde à boire des coups, et on voit Poutine derrière un bar, et au-dessus c'est marqué Polonium, Novichok, Arsenic, Morora, et il y a déjà un chat crevé. C'est épouvantable, des quasi-cadavres, des hommes avec des yeux vides. Et Willem, c'est aussi un délire sur la typo. Si vous regardez bien les titres de ces petites histoires, il y a un énorme travail sur la façon dont c'est écrit. Regardez comment on passe de Ukraine, écrit avec une typo où chaque lettre représente un bâtiment en pleine forme, et la typo...
Ça se décompose,
l'Ukraine est détruite, et apparaît petit à petit une forme, et la forme, c'est Poutine.
Ouais, et ça se recompose enfin, et c'est une bande comme ça.
Et c'est absolument somptueux. Le souci, c'est qu'effectivement, c'est grand. Hein, c'est grand.
C'est pas épais.
C'est pas épais, c'est grand. Par contre, mais c'est grand. Et c'est magnifique. Magnifique. Ça s'appelle, je le rappelle, Mort de rire, Willem, les requins marteaux. À ne pas rater pour les vrais amateurs de dessin de presse, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, parce que j'aurai un autre auteur dont je vais vanter le travail et qui le mérite bien. C'est pas la première fois que je le fais, d'ailleurs. Voilà.
Interlude musical.
Ouais.
Interlude. Waouh, waouh, kung fu, hip hop kung fu, tu vas adorer.
Oh, putain, c'est toi, ça.
Who's but wild with the trigger? Shame on a nigga who tried to run game on a nigga who unbreakable, shatterproof to the young youth. You wanna get gunned? Shoot! Wow! How you like me now? Don't fuck the style, ruthless, wow. Do you wanna get your teeth knocked the fuck out? Wanna get on it like that? Well then shout! Your RZA, your razor, hit me with the major. The damage, my clan understand it, be flavor. Gunning, coming at ya. First I'm gonna get ya, once I got ya, I got ya. You could never capture the Method Man stature. For rhyming, for rapture, got niggas resigning, now master my staff. Never, I put the fucking buck in the wildcat, I'm terror. Razor sharp, I sever the head from the shoulders. I'm better than my competitor, you mean competitor, whatever. Let's get together.
Shame on the nigga who tried to run game on the nigga who buck wild with the trip.
She act so thick, I'm fat. And yo, Ray came blowing and blew off your headphones black. Rock from yo, Cali to Texas. Smoother than a Lexus, now it's my turn to wreck this. Brothers approaching half step, but ain't heard half of it yet. And I bet you're not a fucking vet. So when you see me on the reel, forming like Voltron, remember I got deep like a Navy SEAL.
Same on the nigga who tried to run game on the nigga who fuck wild with the trigger. Same on the nigga who tried to run game on the nigga. I'll fuck your ass up. Style from my vocal, couldn't be with a pair of bifocals. I'm no joker, play me as a joker. Be on it like a house on fire, smoke ya. Dudes be acting like the gangs anyway. Be like, warriors, come out and play, yeah. Hear me, I get into shit, I let it like diarrhea. Got burnt once, but that was only gonorrhea. Dirty, I keep shit stained in my drawers so I can get fist and funk it for ya. Murder, taste the flame of the Wu-Tang, rah. Here comes the Tiger Verse Grave, ow. Be like, wow, with my style, punk. You play me chump, you get dumb. Woo, it's coming through at a theater near you. And get funk like it's true. But
vous avez été spooky, j'ai été groovy avec le Wu-Tang Clan.
Ouais, c'est... comment bonne, enfin je sais pas, je découvre à l'instant.
Il y a un faux côté, il y a un petit côté trompette.
Ouais,
derrière. Ça vous a interpellé ça.
Ouais, et puis un petit côté de la soul.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est
exactement ça. Je sais que vous aimez les voyages, vous aimez Henri de Montfred. Ça,
oui,
je sais ça de
ça
vous, et vous m'avez fait découvrir d'ailleurs Henri de Montfred. Pour tous ceux qui aiment Henri de Montfred, Kessel, Sandra, Rimbaud, tous les amateurs de voyages, une BD ou plutôt une réédition de 4 albums compilés dans un petit bouquin. Wow. Qui fait presque Bible, hein, parce qu'il est hyper épais, 600 pages, un petit, tu vois, un signé pour repérer où tu en es, parce que 600 pages, bah, tu le lis pas en une fois. 4 histoires, les quatre tribulations de Félix Mogo, dessiné par Monsieur Caillot et scénarisé par Monsieur Caillot, réapparaît chez les éditions Glénat, là, dans un gros volume, dans la collection Très Étrange. Félix Mogo, c'est qui? Ben, Félix Mogo, c'est un élégant dandy, moi, je dirais. Un New-Yorkais de ses années 20-30 qui passe toutes ses soirées en smoking avec une cigarette et à boire des cocktails. C'est un séducteur, un amateur de jazz, tu vois, voilà, New-Yorkais d'avant la Seconde Guerre mondiale. C'est un gosse de riche, il est dilettante et il a envie d'évasion et il va par des rencontres, les circonstances vont l'emmener à partir voir ailleurs. Par exemple, dans la première histoire, il va aller voir du côté du Sénégal pour une histoire de trésor. Voilà, l'imaginaire, l'appel du large le font partir et il traverse comme ça des petites histoires qui sont en fait des voyages. C'est vraiment quatre histoires qui jouent sur le goût, ouais, de l'ailleurs que tu trouves dans Montfred et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup ce ton ouais, candide, et puis avec un côté romantique, exotisme. Enfin, tu sais, j'aime beaucoup ça, la découverte de l'autre. Enfin, le personnage est un peu énervant parce que c'est un dilettante. Il a pas mal d'argent, mais sa candeur est déroutante. C'est du faux candide, en fait. Tu sais, qui part découvrir des choses dans le monde. La première histoire est vachement bien, par exemple. Il fait la rencontre d'un petit black dans Central Park qui lui explique, parce qu'il sympathise, que dans sa famille, il y a très très longtemps, au 16e siècle, hein, ses ancêtres a été amené en esclavage, donc dans les Antilles. Et en Afrique, il était très riche et il avait caché son trésor avant d'être capturé. Ce qui fait qu'en fait, sa famille se transmet de génération en génération l'idée qu'il y a un trésor qui est là-bas et qu'il faudrait aller le chercher, quoi. Que c'est l'aurore qui est là. Donc, en fait, ils peuvent sortir de la misère. Leurs racines africaines sont presque pour eux le salut, quoi. Donc, il n'a pas d'argent et en fait, Félix Mongo va partir dans cette entreprise. Il va être pris aussi dans une histoire puisque, en fait, il y a deux frères et il y a une espèce de rivalité. Il y en a un qui est vraiment très méchant et l'autre, c'est celui que Félix évidemment à rencontrer, c'est le bon frère qui lutte pour avoir le magot, pour retrouver ses racines et l'autre vraiment parce que il veut s'enrichir. Et lui, il est là au milieu, un petit peu valsant, mais c'est très très chouette. Ce qui est curieux, peut-être déroutant, c'est que graphiquement, c'est assez hétérogène. Parce qu'en fait, c'est quatre histoires qui ont été racontées à des temps différents. La première en noir et blanc, la suivante en bichromie. Voilà. Il y a des variations comme ça aussi dans le dessin. C'est un dessin très épuré, en tout cas, avec des ancrages très fins. C'est monsieur Christian Caillot, de toute façon, si vous voyez le dessin. Donc, suivez les aventures de Félix Mongo, amateur de jazz dilettante. C'est chez Glénat dans la collection. Collection très étrange, vous partirez à Saint-Louis du Sénégal, en Inde, à Paris, et bien sûr vous serez à New York. Les filles sont joliment dessinées, faut reconnaître aussi. C'est un petit plus comme ça. À vous, mon bon Roger, vous avez le temps encore un petit peu en fait.
Bon, bah si j'ai le temps pour.
Allez,
trépignes.
Il trépigne.
Si c'est le dernier, j'envoie l'artillerie lourde, j'envoie monsieur Rémi Catelin. Voilà, j'ai commencé par Willem, je poursuis, je vous ai parlé de
dessin. Il y a comme une cohérence, quoi.
Bah ouais, aujourd'hui, tiens, spécial dessin de presse par exemple. Et puis, ça tombe bien parce que à Quai des Bulles, j'ai enfin pu rencontrer mon idole Rémi Catelin himself. Comme un con, je ne savais pas qu'il se produisait à Quai des Bulles, sinon bien sûr que oui, on aurait organisé une interview. Et on n'a pas pu le faire, par contre, on a pris des contacts. On a été au stand.
Fameux contacts.
Ouais, on a pris des contacts. Et on va pouvoir organiser ça parce que, ce qui se passe, c'est que c'est toujours difficile un peu de trouver des publications de dessins de presse. Je vous ai remarqué, c'est peut-être pas vraiment votre cam à fond.
Ah, en fait, c'est beaucoup passe maintenant sur Internet aussi. Tu le connais surtout sur Instagram. Non, c'est pas ça.
Moi, je l'ai découvert par le biais d'Instagram, sur les conseils de Malo Carfridin d'ailleurs.
Ouais, et après, il faut vraiment être amateur pour aller chercher la réédition de ça. Parce qu'en fait, ça passe pas par la presse papier.
C'est la question qu'on pourra poser à monsieur Rémi Catelin lorsque on aura.
Il est obligé de s'éditer en fait,
voilà.
Quasiment.
Alors pas tout à fait parce que là j'ai deux collections différentes. Une collection parue aux éditions Café Creed. C'est des tout petits ouvrages carrés façon pif poche en plus fin. Y en a un, Mes adieux à la Seine et La France telle qu'on l'aime de Rémi Catelin, un peu plus gros que le pif poche mais bien moins épais. Et le Rémi Catelin et si plus Rémi Catelin, Dissolution et pas si bête aux éditions Equinovox dans la collection Le Rire en Poche. Et justement, les représentants des susdites maisons d'édition étaient présents. Voilà. Et j'ai tout pris des contacts et on leur a promis janvier, un truc comme ça, histoire de...
Vous engagez devant la France entière, au moins sur Rennes.
parce que comment... Et puis, là on est vraiment un peu dans l'underground, on va pas se mentir. Vous savez pourquoi les libraires aiment pas ça?
C'est trop petit.
Non, c'est parce que ça se fait chourer hyper fastoche. Et ça casse les couilles aux libraires parce que c'est pas qu'ils aiment pas.
Vous genrez.
C'est vrai que c'est chiant et ce type d'édition est victime quelque part d'un succès, mais c'est vraiment pitoyable de voler des petits ouvrages qui ne valent que 4 euros par exemple. Faut vraiment être un fils de yinche pour voler un Rémi Catelin. Alors venons-en justement, on reviendra sur les éditions Iconovox et comment je vous ai dit tout à l'heure, Café Creed quand on les aura au téléphone. En même temps, je pense que monsieur Rémi Catelin, on a pris aussi le contact. Et puis, et voilà. Alors, Rémi Catelin, ça fait longtemps que je vous tanne avec aller sur le site, sur le fil Instagram de Rémi Catelin, vous allez vous fendre la goule, etc. Alors, comment dire? Comment parler de. Alors, on ne sait pas c'est pas du riser, dans la mesure où on est dans une ligne assez crade, on va pas se mentir. C'est-à-dire, moi, c'est un honneur hein, pour moi, parce que ce que j'appelle la ligne crade, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens vont pas être forcément très beaux, vous voyez. Mais on les reconnaît. voyez ce que je veux dire? Il y a énormément dans le travail de Monsieur Catelin. Il y a, c'est assez curieux parce qu'il peut aborder des sujets comme la dissolution, la France telle qu'on l'aime, où on voit justement deux bonhommes, des stéréotypes du français, vous voyez, béret à casquette. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Comment il va traiter l'affaire? Et non seulement il envoie du scud de 12, mais en même temps, il est...
Il est rigolo.
Il est rigolo, ça c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on l'aime. Et c'est ce côté, une espèce d'un côté humain qui vous touche. Par exemple, dans son petit album Pas si bête, dernière vignette, on voit un chien qui dit à un aveugle, un chien d'aveugle qui dit à son patron, « Allez, t'as assez bu, faut rentrer dans son bistrot. » Et l'aveugle lui dit, « T'es pas ma mère. » Comment voulez-vous ne pas éclater de rire et réveiller votre chérie lorsque vous lisez ça au lit?
C'est clair.
Et c'est absolument...
gros, lisez les petits... Allez embêter vos libraires pour demander les petits ouvrages de Rémi Catelin.
Voilà.
C'est ça l'idée.
Et puis d'essayer de voir, je sais pas, moi, on en parlera, on va essayer de les choper assez vite à la radio, de voir effectivement comment...
ça se diffuse, ça.
Ouais, parce que c'est vraiment dommage que ça se perde, sachant qu'en plus, alors le problème du dessin de presse, il peut avoir aussi, le problème du dessin de presse, c'est la temporalité, vous voyez.
Mais il fait pas que du dessin de presse, il a des situations cocasses, celui que vous chroniquiez là, l'image que vous avez racontée, c'était une blague quoi, voilà. Il n'y avait pas de contexte historique événementiel.
Il y a des choses qui sont intemporelles, par exemple, comme à chaque élection très serrée, l'électorat carpiste est très sollicité, et on voit un vilain carpiste dans une vieille barque pourrie, avec plein de petits bonhommes, avec des ordinateurs, des nanas, des bombasses. Oui, alors...
Donc, lisez Rémi Catelin.
Ouais, je sens que vous êtes en train de me dire qu'il va falloir que je conclue.
Ouais,
quoi.
C'est ça, voilà. J'ai essayé d'être discret, mais vous...
Bon, alors... Vous allez sur Instagram, vous suivez le flux de Monsieur Rémi Catelin.
Dont on a le contact.
Voilà, dont on a le contact et qu'on va avoir en semi-direct très bientôt.
Voilà. C'est ça. Interview musicale.
Voilà.
Programmation Roger.
Yes.
Go Ahead Girl.
Yes.
The Man.
Yes.
You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man, you're the man, you're the man for me. You're the man
le retourne, mon bon Erwan, puisque c'est déjà notre dernière interview ce vendredi à Quai des Bulles. Et nous avons la joie de rencontrer maintenant Anaïde Plassard. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Et voilà. On a un petit peu une tradition chez Plume et Pinceau, le nom de notre émission, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre une autrice ou un auteur qu'on n'a jamais eu encore l'occasion de rencontrer, eh ben, on se permet de lui demander un petit peu comment il ou elle est tombé justement dans cette fameuse marmite de la bande dessinée. Anaïg, ça vous est tombé dessus comment? Vous êtes tombé dedans comment?
Clairement, je pense qu'il y a deux facteurs principaux, c'est que le fait qu'il y en avait plein à la maison, mon père était grand lecteur, il est toujours grand lecteur de toutes sortes de choses, notamment beaucoup de romans policiers, enfin ouais, en fait à peu près toutes sortes de choses, mais aussi beaucoup de bandes dessinées. Et donc j'ai pioché dedans très vite, notamment on a une espèce de culte à la maison pour Tintin. Et il y avait pas mal d'autres classiques. Alors j'étais moins attirée par les choses à la Black et Mortimer, qu'il y avait beaucoup aussi à la maison, ou il y avait aussi un peu des choses à la Loge Noire de chez Glénat qui le passionnait pas mal, et ça, je les attrapais moins. Mais il y a plein d'autres choses que j'étais contente d'avoir. Et puis l'autre chose, je pense, c'était un caractère je trouvais que les enfants étaient souvent méchants entre eux. J'ai un souvenir de la petite école où je vois des copines à moi se disputer, être méchantes, et moi je les regardais par la fenêtre de la bibliothèque. J'en rajoute un peu dans l'anecdote pathétique, pathético-mignonne. Et moi je bingeais, comme on le disait pas encore, des bandes dessinées. C'était un refuge en fait, c'est ça, voilà. C'était un refuge pour les moments, pour en échappatoire aux moments pénibles de la vie, pour lesquels j'avais pas encore les outils pour les gérer. Maintenant je me dis que si j'avais eu un smartphone, mon Dieu, j'aurais été perdue. Peut-être que j'aurais travaillé du coup dans le numérique. Mais voilà, moi c'est né comme ça.
C'est tant mieux.
Voilà. Pour affiner, est-ce qu'il y a des lectures dont vous vous souvenez qui ont été des lectures plus personnelles, alors, puisque apparemment vous avez beaucoup consulté la bibliothèque paternelle, mais aussi donc cette bibliothèque d'école. Des lectures plus personnelles qui vous auraient marqué, impressionné, formé, je sais pas.
Clairement, alors par exemple, c'est rigolo parce que je me souviens, quand je me revois à l'école primaire dans la petite bibliothèque là, j'aimais bien lire Julie Claire Cécile. Vous vous rappelez de cette série? Et du coup, je pense que c'était. Alors, c'était pas du tout. Enfin, c'était pas que c'était pas du tout de mon âge, mais ça parlait quand même un peu de. Mais ça donnait envie de la vie de grande. Il y a un petit côté chronique comme ça. Et après, donc là, du coup, mon père, il avait pas ça, par exemple. Et après, je me souviens déjà, j'avais une appétence. Comme ça, je nous amène un peu sur notre sujet aussi. J'avais une appétence pour les personnages féminins. Mais il y avait peut-être. Je sais pas comment dire. Il y avait moins d'autrices femmes en fait. Donc par exemple, Julie Claire Cécile, c'était fait par un homme. C'est la première fois que j'ai pas pensé depuis longtemps, mais ça me donne envie de regarder. Tiens, qui faisait ça? Pourquoi il s'est intéressé à trois jeunes femmes comme ça? Et je me rappelle de lire aussi vers ces âges-là Aria. Et donc là, quand j'y repense, je revois une héroïne, ok, super badass, mais elle était quand même dans une combinaison de guerrières un peu pas pratique, quoi. Elle était à moitié à poil.
Pour le combat au corps à corps, j'imagine. Mais,
voilà.
Mais c'est vrai qu'on a rencontré tout à l'heure Monsieur Fournier, et on l'a vu.
Ah, j'adorais ses Spirou aussi. Ouais.
Et en fait, il y a une expo à Paris sur la bande dessinée à Beaubourg, et il y a un vieux tac au tac qui est diffusé, et il y a Monsieur Fournier et il y a Madame Claire Bretéché.
Une des rares auteurs féminines.
Une des rares autrices,
ouais, autrices féminines, ouais.
De l'époque. Il y a eu Nicole Clavelou chez Métal Hurlant, des personnages comme ça, mais assez rare en fait. Un milieu très. Alors, par contre, on va revenir à vous plus précisément. Votre premier ouvrage de bande dessinée, c'est bien avec Monsieur Loïc Sécheresse, au dessin Is.
Ouais, tout à fait.
Et on se demandait si c'était un hommage que vous aviez voulu rendre à votre Bretagne natale, un petit côté.
Ben, carrément. Ouais. Carrément, en fait. Donc, moi, j'ai travaillé. En fait, avant d'être autrice, j'ai travaillé dans l'édition de bande dessinée pendant longtemps. Mmh. En fait, j'ai été salariée aux éditions Glénat pendant 6-7 ans. Et ensuite, j'ai travaillé pour le magazine de BD numérique Professeur Cyclope, aussi secrétaire de rédaction. Et dans la période où ça se terminait, à la fois, il y a eu des chocs sociétaux. Bah, c'était 2015, les attentats, plus que double d'ailleurs. Plus, moi, le choc, c'était aussi la COP21. Enfin, en tout cas, moi, ça a fait des choses, ou des périodes de vie où j'ai fait émerger mon désir d'écriture. Et j'ai rencontré aussi Loïc, parce que c'est mon compagnon, en fait, depuis cette époque-là. Et donc, dans les premières envies, déjà, on a eu assez vite envie de faire un bouquin ensemble. Et dans les premières envies, j'avais cette idée de relecture de cette légende. En fait, c'était aussi lié à une période...
Le personnage de la femme n'est pas tip-top dans
Bah, c'est ça. En fait, c'était aussi justement des vagues féministes qui arrivaient jusqu'à moi et qui me passionnaient. Je me disais, waouh, l'importance des récits. Et je me suis rendu compte qu'un récit m'habitait beaucoup, c'est la légende de la ville 10. Et je me disais, c'est fou parce que j'ai grandi avec cette histoire alors que l'image des femmes est... tout le monde meurt parce qu'elle a dansé entre guillemets avec un homme différent chaque soir. Et c'est quand
c'est
même.
C'est que les portes sont ouvertes.
Hein. Voilà. Et parce qu'elle a donné sa clé, enfin tout ça avec des métaphores sexuelles très discrètes. Enfin bon, ça c'est les contes, hein, on peut y voir ce qu'on veut. Mais... Et donc je me suis dit, waouh, c'est fou que j'ai ça à l'intérieur de moi alors que c'est. Et ça m'a donné envie de proposer une autre lecture, quoi. C'est ma version de. Quoi, c'est Nicolas Sarkozy qui avait dit la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ben non, en fait. Puis en plus, ce que j'ai compris assez vite, c'est qu'il n'y a pas de légende canonique. En fait, c'est des couches et des couches à chaque fois, avec notamment une lecture très très folklorique. La plus répandue, c'est une lecture très folkloriste, qui est aussi un peu polémique, on va dire, parce que c'est pas forcément l'image. Enfin bon. Et je me suis dit, en fait, ça me rendait. Comme j'étais en recherche de ma légitimité en tant qu'autrice, je trouvais que c'était. Là, j'étais à ma place, en fait. J'étais une femme qui est habitée par cette légende. Je suis une Bretonne, je suis très attachée à la Bretagne. Et voilà. Et du coup, on s'est lancé à faire ça et c'était kiffant. En plus, j'ai une préface de Gilles Servat, c'était trop cool.
Ouais.
Fierté.
Alors, on avait rencontré Monsieur Sécheresse. Alors, c'est pas pour quoi que si, c'était un Breton à l'époque, c'était pour un ouvrage. Enfin, il a fini sa vie en Bretagne, à Nantes, Gilles de Rais. Comment il s'appelle son bouquin sur Gilles de
Rais ? Metal, Heavy Metal, ouais.
Heavy Metal.
Ouais, c'est ça.
C'est absolument fabuleux. Alors, vous êtes une multicarte,
ouais,
comme moi.
Documentrice. Que,
donc, vous avez fait une BD. Après, Pouf, vous avez écrit et réalisé un film documentaire. Ça nous parle un peu parce que c'est Vivement Lundi et Vivement Lundi, c'est René.
Mais oui, on les salue.
La Bédec. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce projet, de ce film qui a été réalisé ?
Avec plaisir. En fait, ouais, je pourrais tellement. C'est tellement un gros truc dans ma vie que faut pas que faut que j'arrive à trouver une version courte quand même, pas trop longue.
On a un petit peu de temps.
Ben, en fait, justement, moi, mon désir d'écriture, il est très lié avec le besoin et l'envie de transformer les choses. Quoi, j'ai un caractère où quand je vois quelque chose qui cloche, j'ai forcément envie d'essayer de comme mettre un pansement là où je repère ou qu'est-ce que je peux faire d'utile. Et en fait, parce qu'en 2015, il y avait donc la COP21. On a travaillé avec le magazine Professeur Cyclope où je bossais pour un numéro spécial pour Arte avec qui on était en partenariat sur la COP21. Et c'était la période où j'ai découvert, on va dire, les théories et les idées autour de l'idée d'effondrement. Quoi, que c'est ouais. Plus la merde encore que ce que je pensais, quoi. C'est-à-dire que ouais, si on regarde juste dans un secteur, déjà c'est la merde, mais si on regarde de manière transversale, je sais pas, énergie, économie par exemple, juste pour prendre ça, et écologie, voilà, ça vraiment. Et c'était choquant vraiment comme découverte et comme façon de voir les choses. Mais moi personnellement, ça m'a aussi, ouais, ça m'a nourri mon désir d'écriture. Donc en tout cas, quelques années après, ça a pris la forme d'une envie d'aller mettre la loupe sur cette commune du Finistère où j'ai grandi, Plamennec, avec l'intuition et que là-bas, il y avait beaucoup de paradoxes et de polarités qui jouaient dans la société française. Bon, on a vécu aussi les Gilets jaunes dans ces périodes-là. Ce côté France des ronds-points VS Bobo que moi, j'étais devenue, quoi, parce que j'ai quitté Plamennec vers 20 ans. Par exemple, pour vous dire une anecdote, moi, maintenant j'y passe énormément de temps, hein, du coup, ouais, parce que j'habite maintenant entre. Spoiler, j'habite vraiment entre Plamennec et Nantes maintenant. Et l'autre jour, je dis à une copine, on se voit pour dîner ensemble ou on se voit pour déjeuner. Et elle me dit, pour déjeuner, comment ça? Je dis, bah, pour manger le midi. Et elle me dit, bah non, mais c'est les gens de Paris qui disent déjeuner et dîner. Hein. Je dis, mais vous dites quoi ici? Bah, je sais pas, on mange ensemble, quoi. Enfin, donc, c'est des choses comme ça qui se logent. Donc. Ça c'est l'angle que j'ai trouvé petit à petit, c'est l'humour et de me moquer de moi-même gentiment. Mais en tout cas, au début, je voulais mettre la loupe sur ces contrastes-là et notamment montrer que on passait notre temps à dire que les problèmes étaient de la faute des autres et que c'est les autres qui devaient changer et que nous on n'allait pas changer parce que c'était plus de la faute des autres. Et mettre ce truc-là de chien de faïence en vis-à-vis du sentiment d'urgence que je peux ressentir, qui est vraiment assez, je sais pas, angoissant, quoi. Et finalement, bah, le déclencheur, parce que sinon, je pense, j'aurais pas fait grand-chose. J'étais en train de faire des repérages en vidéo, je faisais des interviews, je tâtais le terrain, mais j'avais pas de compétences techniques, pas de réseau dans l'audiovisuel. Et en fait, j'ai envoyé, sur les conseils d'une copine, j'ai envoyé un dossier à la plateforme qui est le pôle audiovisuel cinéma des Pays de Loire. Et vraiment, c'est génial que ça existe. Pareil, s'ils m'entendent, merci encore. Et j'ai pu bénéficier d'un parcours de résidence génial. Et au sortir de ce parcours de résidence, j'ai eu plusieurs pistes de production, dont Vivement Lundi, avec qui ça l'a bien fait. Et voilà, et eux, ils ont trouvé, notamment ma productrice Aurélie Angebeau, trouvé des financements, coproduction avec France 3 Bretagne. Et au cours de l'écriture du film, je me suis rendu compte que c'était pas juste de parler des paradoxes des gens, de pointer les paradoxes des gens, alors que moi-même j'en suis pétrie. Et même au final, donc je me suis dit bon bah je pense qu'il faut que je me mette dans le film. Et même au final, je pense que ça rend service parce que du coup ça permet d'adoucir les choses en fait, de dire on est tous dans la même merde, mais on est tous aussi vraiment pétris de paradoxes. Mais en même temps, il faut qu'on avance. Donc comment on fait quoi?
En fait, non, j'ai l'impression, maintenant qu'on a commencé à vous entendre, que vous réagissez beaucoup, vous produisez beaucoup par rapport à ce que vous ressentez, ou aux choses qui vous interpellent. Mm-hmm. Parce que dans l'écologie ou dans le féminisme, finalement, c'est ça votre moteur de oui. création, quoi.
Oui, carrément. C'est le besoin d'être utile, en fait. Même récemment, je me suis dit, je suis en train d'accepter l'idée que je vais pas forcément faire carrière dans un domaine artistique.
Précis, ouais.
Bah, en même temps, voilà, avec tous les guillemets qu'il y a, mais c'est-à-dire que je laisse tomber des attentes de validation par un secteur, de reconnaissance et tout. Moi, je préfère être utile. S'il y a des choses, un livre ou un film que je fais qui est utile à des gens, eh bien, je préfère ça que d'avoir un prix ou d'avoir vendre beaucoup d'un truc, d'une production ou quoi.
Et même le meilleur dia peut varier en fait, finalement. Vous
c'est
êtes
ça.
Pas.
Bah ouais. Mais du coup, en fait, pendant longtemps, je pensais que j'avais un problème de pas réussir à choisir. Je pensais que c'était, j'étais toujours attirée par le nouveau truc parce que j'avais pas le courage d'approfondir un secteur ou quoi. Et en fait, non, c'est pas un problème. C'est comme ça que je fonctionne.
Peut-être que c'est parce que vous avez envie de toucher à autre chose. L'année dernière, par exemple, à Quai des Bulles, vous aviez organisé une expo.
Vous avez bien enquêté sur moi. Mauvaise fille.
Mauvaise fille, voilà, qui nous avait beaucoup fait rire quand on a été la visiter l'an dernier. Peut-être que vous avez envie de toucher à plein de choses différentes. Peut-être parce que à partir du moment où on a un message à transmettre, quel que soit le support du projet,
ouais,
ça marche, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, bah, c'est. Après, c'est classiquement aussi les opportunités. En fait, sur cette expo, c'est quand je pose un objet ou quelque chose. Enfin, ouais, quand je fais quelque chose, après les gens me repèrent, m'identifient. Et là, c'est Anne-Claire Massé qui a lancé cette idée d'expo, qui fait fréquemment des choses avec Quai des Bulles et qui avait repéré, je sais pas, même ce que je racontais sur les réseaux sociaux ou ce que j'avais pu faire, et qui m'a embarqué dans sa super bande de mauvaises filles. Et après, ça donne autre chose, etc. Oui, c'est bah, un rebond, c'est et je trouve ça super, quoi. Ouais. Après, reste la question de comment gagner sa vie avec ça, mais j'y travaille.
Et est-ce qu'on pourrait vous qualifier de militante, du coup?
Moi? Est-ce que je me qualifie de militante? Ben.
Ou d'engagée?
Ouais, engagée, ça c'est clair. Militante, en fait, ça dépend tellement de ce qu'on met là-dessus.
Peut-être que c'est ça.
Par exemple, je ne suis pas encartée. Et là, je suis en train de, justement, de me redéfinir entre. Je me dis. Mon espace à moi, c'est l'espace qui est au croisement de militante et artiste. Et que je vais essayer de me fabriquer un métier avec ça dans cet espace-là. À un moment, j'ai dit à des copines non, mais en fait, je vais être la Mary Poppins de la transition. Genre, qui sort de son Mary Poppins. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film, qui a une manière très créative et bien à elle de régler le problème de la famille dans laquelle elle atterrit. Et moi, c'est ça, j'ai envie de pouvoir atterrir dans un endroit où je me dis, là, je vais être utile là, et je vais sortir de mon chapeau, ma valise, ce qui me vient à ce moment-là. Et c'est là où j'ai la créativité, c'est de me dire, waouh, c'est quoi le meilleur truc que je peux sortir de mon chapeau là, qui va répondre à la problématique que j'ai repérée, quoi.
Et ça sera peut-être citer un homme, comme ça nous permet de rebondir.
sure she can't escape. Whole damn world is a cage. Whole damn world is a cage. If you see her out there behind the wheel, drive and get away. Oh God, I hope she escapes. Whole damn world is a cage. But that's just love.
Quelle habile transition, Roger. Ouais, oh là là, il est fort, il est fort.
C'est un métier, qu'est-ce que je vous dis. Regard dessiné, pardon, sur les masculinités, Si t'es un homme, paru aux éditions Glénat. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet ouvrage collectif, où on retrouve plein d'autrices, d'auteurs, des dessinatrices, des dessinateurs, des militantes.
C'est un œuvre chorale.
Comment est née cette idée et comment vous êtes parvenu à la vendre à monsieur ou madame Glénat, qui préside aux destinées de monsieur Glénat?
Eh bien, c'est venu une soirée... bien animé avec Zanzim à
Quai des Bulles. Par chez nous.
Ouais. C'est un peu ça. C'est au cas où mes parents écoutent. Bon, en même temps, ils sont pas naïfs, hein, je pense qu'ils sont. Et en discussion avec Zanzim, du coup, c'était peut-être en 2018, parce que en 2018, on avait sorti un bouquin chez Vite Cocagne avec des copains de copains copines de Nantes, qui s'appelait Féministe au pluriel. Et j'avais été conviée par Marie Bardiot-Vaillante, qui a été directrice d'ouvrage, à faire une histoire dedans que j'avais écrite et dessinée. Et je disais à Zanzim, moi j'aimerais qu'il existe un bouquin équivalent par et pour des hommes, comme forme d'outil aussi, quoi, qu'on peut, parce que c'était féministe, c'était un bouquin pas cher, et le côté choral je le trouvais bien parce que ça fait pas dogmatique, en fait,
ça fait polyphonie.
Ouais, et je disais ça à Zanzim, et lui, un peu plus tard dans la conversation, il me dit « Non, mais c'est vraiment bien que tu fasses ce bouquin. » Et je dis « Mais t'as pas compris, je veux qu'il existe, mais j'ai pas prévu de le faire. » Et en fait, c'est dans ces moments-là où je me dis « Bah, il a raison. » Enfin, je sais pas s'il a fait exprès de d'amener cette
Avec Hubert, les questions de genre et tout ça, il a réfléchi là-dessus.
Oui,
carrément.
Il les avait abordé pour pas mal d'ouvrages, ouais.
Et donc, j'ai mis du temps, après cette discussion, à me dire... je pense que je cherchais ma légitimité à le diriger, parce que sur un sujet politique et polémique même, je pense, enfin en tout cas, et puis il faut, je sais pas, faut pas faire de la merde, en fait, faut traiter les choses avec respect. Et puis moi je suis une femme, mais je suis une femme blanche, cisgenre, hétéro. Il y a des choses et des réalités que je capte pas, ou je passe pas mon temps à me documenter, à m'informer, en fait. Donc chercher ma légitimité et tout, pendant un temps j'ai cherché un binôme avec une autre personne qui pourrait aussi avec moi réfléchir à la pertinence de chaque proposition et tout ça. Et j'ai pas trouvé ce binôme, et finalement, à un moment, je me suis dit non, mais il y a des gens, les gros machos, ils se posent moins de questions que moi, ils ont moins de doutes et ils y vont. À un moment, si je veux que ce livre existe, il faut que je le fasse. Mmh. Et donc, j'ai commencé à chercher. D'abord, c'était que des auteurs mecs, et, mais pas tous cis, voilà, pas tous hétéros. Et donc, j'avais un petit. Parce que c'était l'œuf ou la poule, quoi. Il fallait. Pour trouver des auteurs, il fallait quand même un moment pouvoir leur proposer un format et une rémunération. Mais pour trouver l'éditeur, il fallait aussi avoir des auteurs à leur vendre, quoi.
Bah oui, l'œuf ou la poule.
Ouais, ça s'est fait du coup avec des gens que je connaissais, de confiance, ou qui ont cru tout de suite dans le projet, même s'ils me connaissaient pas très bien, ils ont cru tout de suite. Par exemple, Jules Marot, on s'est juste croisés comme ça professionnellement. Mais il a eu confiance, il trouvait vraiment super, donc ça m'a donné du courage aussi.
C'est vrai que vous avez fédéré un collectif intéressant, il y a Pochep, nous qu'on adore, il y a Zanzim, qu'on connaît aussi. Mais vous avez donc été démarché l'un après l'autre, tac, 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 Impact, signe avec ton sang, t'es engagé maintenant, t'es foutu.
Ouais. Bah, ça s'est fait, il y a eu des vagues en fait. Robin, l'éditeur aussi, bah, du coup, après j'ai fait un dossier que j'ai présenté à plusieurs. Maison d'édition, et c'est avec Robin Joly de Glénat que ça a matché. Je pense aussi que ça joue, en fait, il y a des gens dans cette maison d'édition qui étaient mes collègues il y a quelques années. Visiblement, je leur ai pas laissé une impression trop affreuse, parce que, enfin, en tout cas, je sais pas, j'imagine, c'est comme partout, hein, l'interconnaissance, ça joue. Surtout que moi, j'ai pas fait beaucoup de choses avant, en fait, enfin, je veux dire, en BD. Donc voilà, l'air du temps, plus. En tout cas, Robin aussi, il y croyait.
Alors, c'est vrai que l'air du temps, comment dirais-je, on va peut-être pas parler des.
Avant de. C'est vrai que ça fait écho à l'air du temps, et ouais, c'est vrai que quand on l'a vu arriver, nous, on a trouvé ça intéressant, et nos chéris aussi.
Ouais, mm-hmm. Surtout que ça fait écho à
on se bat presque pour avoir le bouquin. Là.
Ah oui, super.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais quand vous. Par exemple, je sais pas, quand vous. Imagine, quand vous avez été voir Jean Zim, ou quand vous avez conclu la chose avec Jean Zim, comment l'histoire ou le propos qu'il allait tenir ou elle allait tenir, comment ça se décidait? C'était une j'aimerais bien aborder ce thème-là, est-ce que tu peux le traiter, tac tac, ou alors est-ce que c'était l'auteur ou l'autrice qui vous proposait quelque chose?
Bah, y avait, c'était un aller-retour entre une liberté et un cadre.
Ouais,
c'est-à-dire que souvent je leur ai proposé des axes et des thèmes auxquels j'étais preneuse de ce qu'ils avaient raconté là-dessus. Souvent aussi, les auteurs et les autrices avaient des doutes, se posaient des questions sur leur légitimité ou leur intérêt qu'ils avaient à raconter quelque chose.
Qu'ils allaient dire. Vous avez eu des refus du coup?
Oui, j'ai eu des refus. Ouais. J'ai eu des refus. Par exemple, il y a quelqu'un de, je vais pas donner de nom, mais quelqu'un m'a dit, il y a des gens qui sont prêts à sortir des dossiers contre moi que moi je. Comment dire? Moi, j'estime que j'ai rien fait de mal, mais je pense que c'est pas une bonne idée d'associer mon nom.
Du coup, il s'estimait plus légitime pour parler du coup de la
encore
masculinité.
Moins. Ouais. Ah. Mais en fait, vu que quand même, vous les hommes êtes en train de comprendre qu'il s'agit pas des gentils et des méchants. Il y a pas les méchants hommes toxiques d'un côté et les gentils de l'autre auxquels vous appartiendrez. Voilà. C'est que vous êtes en train de comprendre. Je pense que tout le monde a intérêt à balayer devant sa porte et à regarder avec. Je sais pas, moi j'ai envie de dire avec tolérance envers vous-même, là où vous avez merdé, eh bien du coup, ça fait aussi que les hommes, on se dise « Ah, apparemment, sûrement j'ai merdé, ah bah du coup, je suis pas légitime pour m'exprimer. » Mais du coup, c'est moi qui leur disais aussi « Si, je pense que ça m'intéresse que tu parles de ça et tout. » Et j'ai veillé aussi à dire, moi c'est un truc vraiment qui me tient à cœur, c'est de pas poser des choses en étant trop, justement, pas dogmatique, pas trop sûr, en montrant la vulnérabilité du projet. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans la préface aussi.
C'est peut-être quelque chose aussi de nouveau à appréhender. Moi, je sais que, chez moi, votre ouvrage a fait écho à un bouquin que j'ai découvert grâce à ma femme économiste qui travaille là-dessus, sur le coût de elle s'appelle Lucille Pétavin, elle est une sociologue qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le coût de la virilité, dans lequel elle décrit, il faut bien savoir quand même que 95% des personnes qui sont en prison pour meurtre sont des hommes, 90% des accidents mortels sur la route sont le fait des hommes, etc. Les agressions, les attaques à main armée, on retrouve les hommes en surreprésentation, et tout ça, ça a un coût, un coût qui n'avait jusqu'à présent jamais été pris en compte quelque part. C'était quelque part, c'est un garçon.
c'est normal. Vous voyez, peut-être aussi que c'est tout à fait nouveau, donc peut-être un peu la difficulté de, pour certains auteurs de, vous voyez, de s'impliquer là-dedans. Par contre, ce qui nous a quand même surpris, c'est le naturel avec lequel certains auteurs se sont mis à nu, si j'ose dire. Et notamment, on parlait de Monsieur Zanzib tout à l'heure. Alors, les gens, ils ont qu'à l'acheter, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. Voilà. Mais l'histoire de Monsieur Zanzib, que l'on connaît beaucoup par ailleurs, puisque c'est un Rennais, enfin Kazim, puisqu'il habite à côté, qu'on voit régulièrement et tout, c'est très rigolo. Très rigolo de la façon dont vous avez été surprise, vous, quand il vous a raconté cette histoire-là.
Ben, ça faisait partie des pistes, on peut dire qu'il parle du vêtements en tout cas. Je crois qu'on a, ça fait partie des choses qui m'avait dit je pense travailler là-dessus, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gratitude quand j'ai vu ses pages, son ref sans doute. J'ai eu beaucoup de gratitude de voir qu'il avait grave joué le jeu, quoi, en fait. C'est qu'il livrait quelque chose de lui. Mmh. Et je pense que c'est ça le travail qu'il faut faire, c'est-à-dire que il s'agit pas de dire dans tous les segments de ma vie j'ai fait mon autocritique et je suis nickel et tout. Non, là dans un bouquin, on va pas tout. C'est un bouquin collectif en plus, donc. C'est la juxtaposition des choses qui donne de la justesse et vous n'avez pas tous à être... Enfin, en tout cas, ce que je vous demande, c'est le segment de votre vie que vous allez livrer là. Regardez-le avec honnêteté, sincérité et ça fait avancer, je pense, ça fait avancer Schmilblick.
Moi, j'ai l'impression que quand même, à la base, dans cette fameuse définition de la masculinité, il y a aussi un problème d'éducation. Je pense que peut-être les petits garçons sont élevés comme étant ayant le droit de faire des choses que les petites filles n'ont pas le droit, etc. Et l'éducation entraîne aussi cette reproduction infinie de comportements toxiques aussi, peut-être. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était marin, donc du coup, je le voyais très peu. J'étais cuistot et j'ai été élevé par ma maman qui a dû jouer le rôle d'un homme. Donc j'étais avec ma maman, avec ma grande sœur, etc. Donc j'étais dans un univers de femmes. Mon père était cuistot et quand il rentrait, il faisait à manger, il faisait le ménage, il reprisait ses chaussettes parce qu'à l'époque, personne, il partait 6 mois, personne ne lui reprisait ses chaussettes. Mais s'il voulait m'en coller une, l'image du père, elle restait. La virilité, elle peut être dans le ménage aussi, je veux dire. Moi, j'ai l'image de mon père qui repasse le linge. Mmh. Et ça n'a jamais enlevé en moi, quelque part, la moindre once de masculinité chez lui. Ça restait mon père quand même.
Ouais.
Peut-être qu'on a un déficit d'éducation et parfois peut-être que les femmes, les mères reproduisent aussi.
Ah ben oui,
elles
c'est
vont
sûr.
Y parler. Oh ben non, toi t'as pas besoin de faire la vaisselle. Les filles vont faire la vaisselle. Les filles vont se lever de table,
c'est
etc.
Clair. Ben moi, en fait, j'ai donné ma propre vision. Moi, j'ai participé aussi. J'ai écrit une histoire dans le collectif qui est dessinée par René. Et en fait, moi, j'aime bien utiliser les termes, les concepts de yin-yang pour penser au masculin et au féminin. Justement, pour ne pas utiliser les mots masculin et féminin qui renferment encore dans nos corps presque, dans nos corps biologiques. Et que, effectivement, j'aime bien dire que, par exemple, une femme peut être très yang. Les femmes qui vont se comporter en patronne d'entreprise des années 80 ou qui vont être dans la domination... Qui croient vachement dans leur rôle hiérarchique de chef. Dans ma tête, je vais me dire, c'est une personne qui a beaucoup embrassé le côté yang. Et que moi, personnellement, ça m'aide à penser les choses. Et donc, effectivement, ce qui est contrariant, c'est qu'en soi, on valorise plus le yang que le yin, ce qui est souvent le cas. On va valoriser le yin dans les sphères intimes. Donc l'écoute, la douceur, ce qui est classiquement attribué aux femmes. On va valoriser le yin dans les sphères intimes et on va valoriser le yang dans les sphères publiques. Et on va critiquer on va peut-être un peu mal voir, dévaloriser les hommes qui ont un gros côté yin et peut-être aussi dévaloriser les femmes qui ont un gros côté yang. On va les appeler des garçons manqués, par exemple. Mmh. Alors qu'en fait, en toute chose, c'est l'équilibre qui est bon. Et moi, c'est ma vision personnelle, du coup, ça répond pas forcément directement à ce que vous disiez, mais en quelque sorte, c'est ma réponse à moi.
D'une certaine manière, si, parce que moi, mon père, il était aussi bien homme que femme, je veux dire, il faisait le ménage comme aurait pu... D'ailleurs, c'est une blague avec ma femme, je dis, bah oui, machin, elle me rappelle, oui, ton père, il avait le sol tous les jours, oui. Ce que je ne fais pas, d'ailleurs, parce que j'ai un peu la flemme. Mais comment dirais-je...
Est-ce qu'il y avait quand même un équilibre yin-yang chez vous?
Oui,
c'est-à-dire
ça.
Qu'est-ce qu'il y avait aussi de la douceur? C'est ça la question.
Et comment...
De toute façon, votre, enfin, ce, ce, de cet album, il nous pose pas une réponse définitive. Je veux dire, c'est que des éléments de réflexion.
C'est pour se mettre au travail, en fait, parce que je pense que c'est à la fois un élan de douceur et de colère de ma part. C'est-à-dire, on peut dire colère quand même, mais de me dire, les mecs, au boulot, quoi. Et que, ce que je raconte dans la préface, c'est que j'ai voulu avoir des échanges sur des garçons avec qui ça s'est pas bien passé à différents degrés dans ma vie. Et l'échange n'a pas pu avoir lieu. Et ça m'a beaucoup frustrée. Donc j'ai été aussi dans les mêmes périodes, plutôt dans des sphères non mixtes, avec ces expos, l'expo de Quai des Bulles. Et puis, il y a quelques années avant, une expo avec Maison Fumetti aussi sur la BD féministe.
À Nantes.
Des choses non mixtes. Mais c'est même pas que je me disais, j'en ai marre, je veux plus voir les mecs. C'est que ça matchait, j'avais des aspirations communes avec des femmes qui avaient envie d'explorer ces choses-là politiques, émancipatrices, quoi. Et finalement, au bout d'un moment, je me disais, mais je vais tourner en rond. Enfin, en tout cas, j'avais une aspiration à aller vers juste le truc de me dire, imaginons postulat de dingue, toutes les femmes deviennent féministes. Eh ben, ça fera jamais que 50% de l'humanité, à la louche. Et en plus, on n'a pas le pouvoir dans la sphère publique. Donc, il faut trouver quelque chose pour que les hommes soient capables de se mettre au boulot. Et je me suis dit, je pense qu'il y a une crainte, même chez les hommes qui ont envie d'être des alliés, il y a une crainte de s'exprimer publiquement, parce qu'il y a une peur de mal faire ou de dire quelque chose après qu'on leur dise « Ouais, mais toi, tu t'exprimes pour le féminisme, mais il y a 5 ans, tu t'es mal comporté, et du coup, que ça fasse tout s'écrouler. » Et moi, je me suis dit, comment ça pourrait se faire pour que des hommes osent s'exprimer et qu'ils aient pas ces craintes-là. Alors, ils les ont peut-être, mais en tout cas, pour moi, la réponse, c'est de montrer la vulnérabilité du process, c'est-à-dire que on est tous au travail, en fait. Et moi, ok, je suis une femme, donc je suis du côté des dominés dans la question du genre, mais j'ai grandi dans un pays colonisateur, par exemple. Je suis blanche, je viens d'une famille plutôt bourgeoise, donc moi aussi je profite des systèmes de domination par plein d'aspects, et je suis pas du tout j'aime bien acheter des produits fabriqués sans doute par des gens semi-esclaves, enfin je veux dire, c'est juste un exemple, mais pour dire que si on devait tous avoir le cul complètement propre pour s'exprimer, pour dire la moindre chose, en fait, ça n'avance pas, quoi. Ça n'avance pas.
Alors, je vois l'heure tourne, malheureusement, mais comment vous êtes donc, on va dire là, en ce moment, vous êtes dans le monde de la BD, puisque on peut le considérer comme un ouvrage de BD. La BD, elle aussi, est restée longtemps un milieu exclusivement, pratiquement quasi exclusivement masculin. Est-ce que vous pensez que c'est quand même en train de changer, qu'il y a des meilleurs... Alors, nous, on va par exemple accorder de la place aux éditions Marabulle, parce qu'ils ont toute une collection qui a décidé de mettre en avant des biopics de femmes un peu méconnues, etc., les mettre en avant. Est-ce que vous connaissez d'autres expériences, ou vous avez, avec Monsieur Sécheresse, vous fréquentez peut-être d'autres auteurs, des autrices, etc. Est-ce que vous trouvez que ça change, ça évolue? Je ne sais pas.
Oui, clairement, ça évolue dans le sens de plus de diversité, y compris aussi de personnes racisées, parce qu'on est quand même beaucoup entre personnes... Enfin, je sais pas, je regarde autour de moi, il n'y a que des personnes blanches, par exemple.
Oui,
c'est pas un crime, mais c'est un fait.
Alors, vous avez quand même un point info, Création Africa, Focus BD, super, Webtoon, ouais, derrière okay. Vous. Oui, ils sont en photo.
Donc on essaye de faire avancer les choses. Il y a quelqu'un que j'ai eu le plaisir de rencontrer d'ailleurs à Angoulême. C'est une autre histoire. Mais on peut digresser facilement. Oui, ça évolue, et moi je peux parler des personnes que je fréquente, moi, à Nantes, c'est beaucoup les gens de Maison Fumetti, où là, vraiment, il y a une ambition politique chevillée au corps des gens qui tiennent la baraque de Maison Fumetti, que ce soit côté salarié ou côté bénévole, en fait. Du coup, ça passe par les personnes, par qui sont les auteurs et autrices, et qui on invite, comment on les accueille, tout ça, le statut d'artiste-auteur aussi, réfléchir à ça sous un angle politique, et aussi sous quelle forme ces gens s'expriment, et que ce qu'il y ait une curiosité, qu'on reste pas toujours dans notre... Donc oui, je pense que ça évolue dans le bon sens, mais quand même, je tiens à remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui se sont intéressés à ce bouquin. Alors que c'est un sujet d'actu.
C'est marrant parce que je trouve ça...
Ça nous a fait cogiter.
Ça match, super, ça me fait super plaisir.
Ah ouais,
je pense qu'il y a plein d'hommes qui se disent... Bon, enfin, ou Ils ont peur peut-être, non, je sais pas.
Mais même pour être franc, on a eu des... Alors je dis pas qu'on a eu des grandes discussions intensives, mais on a eu quelques échanges sur cette thématique-là, une chose qu'on n'avait jamais fait avant, et pourtant ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, quoi.
Oui, c'est vrai.
On
bah,
avait vraiment pas... Enfin, ça...
Ça me fait très plaisir.
Ouais, ouais. Mais vous êtes là au festival, donc vous êtes là aussi peut-être en dédicace, en rencontre. Et justement...
Cet après-midi, j'ai fait une dédicace.
Ah
ouais.
Une seule?
Enfin, oui, il n'y a qu'une seule personne qui est venue. Ouais.
Donc, okay. Un homme ou une femme?
C'était un homme.
Ah,
ouais.
Comme quoi un après l'autre. Il faut être optimiste.
De toute façon, moi, je ne suis pas... Enfin, comment dire? Déjà, je considère que moi, mon boulot, c'est de faire les livres et c'est pas à moi de les vendre. Mais je sais que chez Glénat, côté Glénat, ils s'activent, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que, justement, pour pas me sentir mal et de me dire, oh là là, machin, je me dis, bah, moi, mon boulot, il est fait, en fait. Et je pense que je l'ai correctement fait. Et en fait, je suis sûre que... Enfin, je sais pas comment dire. Ces objets, ils sont là maintenant, ils sont en librairie. La couve, elle est canon, elle donne envie. Ça va continuer. Ça peut être des choses longues traînes, en fait. Et comme on dit dans le commerce, quoi. C'est-à-dire des choses qui auront une vie longue, en fait. Et puis moi, dans ma vie, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, ça me permet d'avoir des rebonds, en fait. Parce que les gens m'identifient comme ayant fait ça. C'est...
Oui.
Et c'est comme, enfin voilà.
Mais moi, je crois beaucoup aux gens qui se rencontrent et donc discutent et avancent comme ça aussi.
Oui.
Je crois beaucoup à ça.
Oui, c'est un ouvrage qui a sa place, par exemple, dans des CDI de lycée ou aussi dans des plannings familiaux aussi, parce que ça peut interroger sur la place de l'homme. Et puis, c'est vrai que de toute façon, le premier travail. Alors, nous, c'est vrai que dans la vraie vie, on est enseignant, donc on parle beaucoup, on pense beaucoup à l'éducation. Et quand on a des jeunes filles qui sont prêtes à reproduire le modèle qu'elles ont connu, moi, ça me fout en rôle.
Ouais,
Et il m'est arrivé de demander aux gamines, qui c'est qui fait la vaisselle, et hop, tous les filles lèvent la main, et pas les garçons.
Ouais.
Et donc je chope les mains des filles, vous êtes palmées, vous avez quelque chose, je sais pas. Donc quand vous me demandez ça, je sais pas s'il y a que vous qui faites la vaisselle. Et on les fait, enfin moi je les fais travailler sur un texte de Gisèle Halimi, où elle raconte comment elle avait fait la grève de la faim pour refuser de faire... D'ailleurs, non, moi je me lève plus, je débarrasse. En Afrique du Nord,
chez les jeunes filles, il y a aussi ce délire autour de la fille propre, de la sur. J'avais capté que sur parce que quand on vieillit, c'est difficile de capter ce qui les intéresse, qui est leur vocabulaire, tout ça. Mais il y a un truc autour de la trend, la tendance des clean girls, et donc ça, c'est des modes de maquillage, de coiffage, tout ça, de la fille propre, et donc en contraste avec quoi? Alors, en l'occurrence, c'est une esthétique en contraste avec aussi les filles botoxées, les filles qui sont plus dans une autre esthétique très voyante, très extravertie. Mais j'associe ça quand même, c'est juste une autre forme de résurgence aussi de la fille discrète, propre, qui est à sa place. Et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur, mais moi, j'essaye de ne pas être dans une énergie de peur ou d'angoisse. J'essaye de me dire... Je fais ce que je peux à mon endroit.
Oui, il y a des forces contraires, de toute façon, il ne faut pas
se... C'est ça, on ne sait pas qui va gagner à la fin.
C'est dans le langage, quand elles disent « ça me casse les couilles » ou « quand ça s'appelle frère », je suis toujours halluciné. Comme les footballeurs, quoi.
J'ai des copines qui disent « ça me casse les couilles », moi.
Oui, mais je trouve ça hallucinant. Vous avez évoqué la couverture. J'aimerais bien que, justement, comment vous l'avez décidé, cette couverture? J'aimerais bien que vous nous l'expliquiez. Ça, c'est une question qui nous est... C'est toujours intéressant, les couvertures.
Alors là, c'est vraiment une idée
c'est
de...
Enzymes,
Fred,
je crois.
Ouais. C'est une couve de enzymes. Et en fait, moi, je lui ai pas fourni... Je pense qu'il a eu... On en a pas trop parlé, en fait, parce que... C'est venu direct. Alors, bien.
Pour décrire aux auditeurs, on voit un espèce d'homme qui se tient debout.
Qui pourrait être un Ken ou un...
Mais c'est comme un écorché. Man. Comme vous savez, en cinquième, quand on écorche une souris, pouf, il a le ventre ouvert.
Là, on peut penser à la peau d'homme aussi, du coup.
Et on voit une petite cosmonaute. Apparemment, c'est une femme. Hein,
vous voyez une femme.
Cils. Alors, c'est vrai qu'elle a pas de poitrine, mais elle a un petit regard féminin.
Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand même, je vous sors comme une Mary Poppins qui sort de son sac. J'ai amené... Parce que je savais que j'allais parler de mon film ce week-end, quand j'avais envie d'en parler. Donc, j'ai amené le DVD. Instant pub. Mon film est visible en ce moment sur France.tv. Vous tapez Retour à Plabennec. Si ce que je raconte vous intéresse, regardez mon film. Et alors, il y a quand même une similitude assez étonnante, si j'arrive à l'attraper pendant que je parle. Hop. Donc déjà, les tons roses. Et dans le film, là, on voit pas très bien, mais en fait, j'ai copié une image de mon inspirateur qui s'appelle Rob Hopkins, le créateur des villes en transition, enfin un des initiateurs. Et donc, je me suis baladée aussi en cosmonaute. avec le panneau « Je reviens du futur et nous avons gagné ». En fait, c'est voyageuse dans le temps, mais dans les faits, c'est une tenue de cosmonaute. Et quelqu'un, et j'avais même pas capté, et quelqu'un m'a dit « Mais t'as remarqué que dans la même période, tu sors un film et un livre, et avec du rose et une tenue de cosmonaute ?» J'ai fait « Je n'avais même pas remarqué ». Parce que, pour le coup, ça, c'est une... C'est une image vraiment imaginée par Zanzim. Okay. Alors que cet imaginaire-là, c'est bien moi qui suis allée le créer, quoi. Et donc, il y a un truc, je dois être un peu une femme de l'espace, ou je sais pas, mais...
Une exploratrice.
Une exploratrice.
Une exploratrice.
Ouais.
Parce que là, la petite cosmonaute sur la bande dessinée plonge au plus profond de ouais. l'homme, quoi. C'est
mais
ça l'idée.
Moi, je pense que ça peut être un homme ou une femme. Alors, oui, voilà, ça, c'est votre projection.
C'est peut-être à cause du petit cils.
Ouais,
c'est... Ouais.
Faudrait demander
les
à monsieur Zanzim.
Il est fort aussi pour justement
oui,
sur ses...
Il brouille les cartes.
Et voilà, et le personnage monte sur un escalier comme dans une fusée pour aller peut-être s'installer dans un siège de pilotage qui est au niveau soit des tripes, soit des organes génitaux
du pubis, ouais.
du personnage.
Ouais, et avec le fauteuil, voilà. Ça d'ailleurs.
Il n'a pas de caquette, si j'ose dire.
Non, c'est ça.
C'est
comme
un Ken.
Ouais.
Bodybuildé.
Donc pour voir, la question, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces carapaces parfaites et lisses des hommes traditionnels.
En tout cas, on va quand même vous poser une question sur vous avez peut-être en plus des projets, peut-être encore à l'égard.
Alors, qu'est-ce que c'est mes projets on est en train de finaliser un dossier avec une illustratrice nantaise qui s'appelle Léonore Equoy et qui est un projet d'album jeunesse. Là, pour le coup, qui a moins de vocation politique, c'est plus un truc qui est venu de mes tripes comme ça, comme un rêve qui arrive ou un voilà quelque chose de plus, on va dire, du domaine psychanalytique. Mais elle est en train de produire des pages et pour avoir un dossier, donc j'ai très hâte de le présenter. Et incursion, voilà, encore dans un nouveau domaine de l'illustration jeunesse. On va aller voir à Montreuil
mais
si on peut faire des
faire.
Rencontres. Bah non, pas encore. Et puis sinon, je sais que j'ai envie de faire une suite de Retour à Plavennec. Et ma productrice est partante aussi. Mais bon, encore faut-il voir ce que je veux raconter dedans. Mmh. J'ai très envie aussi de faire un film documentaire sur les addictions. Voilà, et j'ai assez envie d'aller vers le podcast, moi aussi. Donc, j'ai des choses.
Elle a des choses à dire. Ouais, non, mais c'est super.
Par exemple, aussi, un jour, j'étais en train de danser parce qu'on adore danser avec plein de copains, copines. Ça fait du bien. C'est gratuit, c'est de la joie. C'est de la vitalité, c'est voilà. Et je me suis dit, mais ce serait génial de faire un bouquin comme si t'es un homme, enfin, quoi, même mode chorale comme ça, sur la danse. Mais bon, ça, c'est vraiment au stade de... J'ai comme un jardin avec des petites graines plantées ci ou là, des choses qui poussent, et puis on voit bien ce qui vient. Encore une fois, faut-il pouvoir payer son loyer avec ça? Mais j'y travaille.
En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on a une question qui n'a strictement rien à voir, mais qu'on pose à toutes les autrices et tous les auteurs. Vous avez une boîte d'Haribo devant vous. Alors, on va l'ouvrir. Et puis, peut-être que vous avez renoncé à enrichir votre dentiste aussi. Peut-être que vous n'en mangez plus, j'en sais rien.
Ouais, je veux bien.
Mais alors, lequel vous prendriez? Quel est celui sur lequel vous vous jetez indépendamment de tous?
La bouteille de Coca, parce que je suis addict au Coca Zero, Braise Cola Zero, si possible. Parce que j'ai arrêté l'alcool il y a 2-3 ans.
Waouh.
Parce que j'ai bien bu pendant, du coup, je sais pas, 35-38 ans. J'ai pas bu entre mes 0 et 15 ans, quoi. Et du coup, je me dis, c'est bon, maintenant, j'ai plus besoin. Donc, je suis abonnée au Coca Zéro. J'ai l'impression que mon constat, c'est que la vie adulte, c'est choisir entre ses addictions. vous avez pas cette impression, vous?
J'ai
de chercher à passer d'une addiction à une autre, la moins toxique possible.
Des addictions, mais
ma compagne, pareil, elle a arrêté l'alcool du jour au lendemain, la cigarette, l'alcool, tout, elle s'est mise au sport, c'est incroyable, une force de volonté que j'ai pas.
Moi, je dis, j'appelle ça la force de volonté.
Ouais, c'est fou, je suis faible.
J'en ai d'autres, des addictions, vous inquiétez pas.
En tout cas, merci d'être venu avec nous.
Avec plaisir.
Et puis, à très bientôt, j'espère.
De même.
ça doit être mon côté romantique de vieil homme blanc cisgenre, tu vois.
Ouais. Qui ne craint pas la concurrence.
Qui ne craint pas la concurrence. Zaus, love you more.
Yes.
Donc, vous avez pu entendre l'interview réalisée à Quai des Bulles par moi-même et Roger de madame Anaïk Plassard pour l'œuvre collective. C'était un homme. Vraiment un bouquin intéressant qui, yes, effectivement, nous fait réfléchir. En tout cas, on a abordé des points qu'on n'avait jamais évoqués jusqu'à ici, entre nous deux, mon bon Roger.
Non, vous jamais. Avez...
Non, jamais. Il ne s'est rien passé.
Il ne s'est absolument rien passé.
C'est aux éditions Glénat. C'était la 490e de Plumes et Pinceaux. Bonne lecture.
Tant qu'on a le droit.